de s'être fait lui-même objet de sa science, l'homme moderne a jusqu'ici tiré un bénéfice remarquablement mince. Ce n'est peut-être qu'une question de temps. Il me semble plutôt que cette affaire de découpe. Le sujet de la science procède avec lui-même comme avec le reste. Il se segmente en phénomènes, il se réduit en morceaux. À ceci près que la capacité réductrice des sciences dites humaines ou de l'homme s'est révélée infiniment plus faible que celle des sciences dites de la nature. Dans les premières, la méthode expérimentale ne fonctionne que très imparfaitement et donne des résultats très partiels à la périphérie de l'humain. Ici, la psychologie s'impatiente et proteste. Elle prétend viser l'humain au cœur, à l'âme. Elle est par définition la science de la psyché. De le dire suffit à faire entendre ce que cette discipline, la science de l'âme, a d'incongru. L'étude des caractères et des comportements n'y suffit évidemment pas. Par bonheur, nous avons la médecine, plus particulièrement la médecine du cerveau, de l'âme, la psychiatrie. Psychologie, psychiatrie et pharmacie forment ensemble un redoutable faisceau d'interventions sur le système nerveux. Mais ces interventions sur la matière organique de la psyché, pour providentielles qu'elles puissent être parfois, se font presque toujours au détriment du corps. Science expérimentale de la machine humaine, la médecine moderne découpe son objet jusqu'à le rendre souvent méconnaissable. Nous avons indiscutablement une science des maladies, physique ou mentale. Cela ne fait toujours pas une science de l'homme, sauf à l'amputer de ses semblables, les autres, de la parole, du rêve, du désir, des passions, bref, d'à peu près tout ce qui fait l'homme. Il ne s'agit pas de blâmer la médecine ou la psychologie, mais seulement de faire voir, en passant par elle, que l'objet d'une science de l'homme est introuvable. Ce n'est pas pour rien que les sciences humaines et sociales se disent au pluriel. Et chacun devine aisément que toutes ces disciplines qui gravitent autour de l'homme et de la société, hormis une partie de la psychologie, s'intéressent confusément à ce que les sciences expérimentales ne peuvent saisir. Mais en même temps, ces disciplines font face, dans leur désir d'innover, à une très vieille impasse, puisque depuis toujours, l'homme se définit plus ou moins explicitement comme celui qui se dit homme. L'homme est l'être qui parle de lui-même en tant qu'homme. Son savoir sur lui-même ne peut être que profondément tautologique, comme le montre assez finement Danny Robert Dufour dans « Le bégaiement des maîtres ». Ou pour le dire autrement, d'être à la fois sujet et objet de son regard, l'homme se trouve par principe dans l'impossibilité de fixer la moindre limite aux sciences de l'homme. Les frontières qui divisent le vaste champ des sciences humaines et sociales, ne s'expliquent qu'historiquement et leur consolidation n'est due qu'à l'insécurité des chercheurs. Il est devenu patent aujourd'hui que ces frontières n'ont la plupart du temps plus grande justification épistémologique. Elles répondent plutôt à une nécessité pratique, la nécessité de se spécialiser, faute de pouvoir tout étudier. Mais cette spécialisation a généralement plus de sens dès lors de se définir par son objet, par son terrain, que par sa discipline ou sa méthode. Au reste, ce compartimentage sert souvent de fortification au spécialiste, elle le fortifie dans la valeur de sa propre expertise. Tout cela pour dire que l'homme ne se connaît guère mieux de s'être posé à lui-même comme objet d'un regard qui se veut parfois désespérément scientifique et que, aujourd'hui comme autrefois, la connaissance de l'homme sur l'homme est à chercher dans ce qu'il ne cesse de raconter et de re-raconter depuis qu'il parle et qu'il écrit. Je recommence ce paragraphe. Tout cela pour dire que l'homme ne se connaît guère mieux de s'être posé à lui-même comme objet d'un regard qui se veut parfois désespérément scientifique et qu'aujourd'hui comme autrefois, la connaissance de l'homme sur l'homme est à chercher dans ce qu'il ne cesse de raconter et re-raconter depuis qu'il parle et qu'il écrit. Les sciences humaines elles-mêmes témoignent de cette pérennité en remettant à l'honneur les mythes, le récit et l'art de l'interprétation. Aujourd'hui, plus que naguère, tout est lecture. Jusque dans les théories de la physique fondamentale, qui se propose de plus en plus comme une lecture de l'univers, une interprétation de la matière. Il est toutefois à l'égard de l'homme une lecture particulière, une écoute, une discipline limite au statut ambigu qui n'appartient complètement ni aux sciences humaines, ni à la médecine, ni à la littérature, et qui se propose étrangement comme remémoration, récit et archéologie de l'âme. Une démarche qui, paraissant transcender toute frontière, mettrait un peu de lumière dans le tonneau des Danaïdes. En éclairant le soubassement psychique humain, elle révélerait et du coup déjouerait le rapport tautologique de l'homme avec lui-même. La psychanalyse est à bien des égards un voyage aux limites, une exploration aux limites de l'inconscient, c'est-à-dire une sorte d'impossibilité. L'inconscient est par définition ce que je ne connaîtrai jamais de moi-même. Il est tout au plus un soupçon que j'ai à mon propre égard par chaque fois que des bribes s'échappent de cette zone inaccessible, rêve, lapsus, sursaut. La psychanalyse se tient à la limite de cette zone obscure, comme un pêcheur sur la rive abrupte d'un lac sans fond. Elle tente d'y attraper des signes, mais l'image est encore trop précise. Car le pêcheur, en analyse, ne sait pas très bien où est le rivage, ni ce qu'il cherche. Il faudrait mieux se le représenter comme un plongeur privé de lampe. Arrivé à une certaine distance de la surface, il ne voit plus. Le moins qu'on puisse dire est que la limite est floue, graduelle, et que la psychanalyse ne pourrait prétendre à rien si, dans ce clair-obscur, et parfois jusqu'à faire brutalement surface, ne remontait quelque chose des profondeurs. La métaphore marine reste insatisfaisante, même si elle coïncide en partie avec l'idée qu'on se fait de la fouille archéologique, une autre passion de Freud. En partie seulement parce que l'archéologue sonde le temps. Il creuse les couches sédimentaires successives déposées par le temps sur l'objet de sa recherche. La démarche analytique, à sa manière, souffle la poussière du temps, elle abolit le temps, à l'image chez Proust du fameux épisode de la petite Madeleine ou du pavé sur lequel le narrateur vacille dans la cour de l'hôtel des Guermantes. Ce qui est retrouvé dans la psychanalyse comme chez Proust, ce n'est pas tant l'événement lui-même que l'émotion, que la marque affective qu'il a laissée intacte dans une alvéole de la mémoire scellée par le temps. La vérité de la démarche analytique ne tient pas au souvenir de la joie ou de la douleur, simple réminiscence de s'être senti heureux ou d'avoir eu mal, mais elle s'éprouve dans cette joie même, dans cette douleur même, demeurée vivace, quelle que soit l'authenticité des événements auxquels on les croit liés. Il y a donc une vérité de l'analyse, comme il y a une vérité de la mémoire affective. Il n'est pas nécessaire d'avoir accès à l'inconscient, par définition inaccessible, pour en déchiffrer les messages codés. Ni déraisonnable de penser que des poissons bariolés de signes traversent une eau que notre volonté ne peut franchir. Reste à se demander si la pêche aux signes est elle-même susceptible d'être organisée, théorisée. On a frappé à toutes les portes qui ne donnent sur rien, écrit Proust, et la seule par où on peut entrer et qu'on aurait cherché en vain pendant 100 ans, on y heurte sans le savoir et elle s'ouvre. La difficulté première de la psychanalyse n'est pas de chercher à connaître l'inconscient, impossibilité absolue, mais bien de vouloir piéger le balbutiement qui s'en échappe. On se heurte à l'inconscient sans le savoir. L'inconscient frappe à une porte dont nous ignorons l'existence. Freud est tour à tour admiré et détesté de nous avoir réveillés à ces coups frappés d'une autre scène, à ces pulsions qui nous travaillent sur un autre théâtre. Mais son mérite propre, celui qui prête le plus à discussion, est d'avoir voulu planter des poteaux indicateurs précis sur la frontière invisible qui nous divise, c'est d'avoir cru pouvoir établir un relevé de cette zone indécise où se côtoient les deux mondes qui nous habitent. Qu'il soit intérieurement divisé, qu'une part de lui-même lui soit étrangère, il y a longtemps en effet que l'homme s'en doute. On pourrait remonter à l'un des plus vieux récits dont nous ayons depuis peu connaissance, l'épopée de Gilgamesh, tout à la fois cosmologie et allégorie magnifiquement lucide de la condition humaine, qui met en scène deux frères ennemis, Gilgamesh et Enkidu, où l'autre, le second, apparaît finalement comme le double de l'un. Mais je préfère m'arrêter à une figure mieux connue que Freud a contribué à populariser et à réduire, l'Œdipe de Sophocle. Je m'expliquerai plus loin sur la réduction freudienne. Rappelons d'abord qu'en deux mots, de quoi s'occupe la pièce de Sophocle. Œdipe roi est la tragédie de l'identité. Œdipe, souverain incontesté de Thèbes, qui, en dénouant l'énigme du sphinx, a sauvé la cité de la peste, ce prince perspicace et respecté, parvenu au fait de sa gloire, ce roi dont les sujets, en proie à une deuxième épidémie, attendent une nouvelle délivrance, et qui se targue de faire la lumière sur le meurtre impuni dont la ville paie le prix, cet homme admirable ne sait pas qui il est. C'est même de cette ignorance qu'il tire la force d'ouvrir l'enquête implacable qui mène, avec la découverte du meurtrier de Laios, à celle terrifiante de son identité. Les circonstances de son avènement, le parricide et l'inceste qu'il a commis à son insu, l'ont depuis longtemps mis malgré lui sur le chemin de ce qu'il croyait fuir. C'est d'avoir refusé de faire face au doute originel qui l'a poussé à consulter l'oracle de Delphes et, devant l'effroyable avertissement, à se détourner de ses origines qu'il finit par les rejoindre. Même si Œdipe paie pour ses fautes commises, pour des fautes commises avant lui par ses géniteurs, l'avoir engendré contre la vie du dieu puis avoir machiné sa perte, il n'est pas le simple jouet du destin. Sans quoi, comme le fait bien remarquer Aristote, il n'y aurait pas de tragédie. La tragédie, c'est que devant la mise en garde d'Apollon, Édith se trompe, au double sens du terme. Il s'égare et commet une erreur. L'erreur est de croire pouvoir échapper à ses origines, c'est de se fuir, c'est de vouloir ignorer le célèbre précepte inscrit sur le sanctuaire du Dieu qu'il est pourtant venu consulter, « Connais-toi toi-même ». Ce qui lui est le plus proche, son origine, lui reste ainsi profondément étranger. Le retour inopiné de cet autre secrètement logé en lui ne peut être qu'inquiétant, terrible. Et pourtant, Œdipe ne flanche pas. Celui qui naguère a biaisé avec lui-même va cette fois jusqu'au bout de son enquête. Et s'il en vient à se crever les yeux, ce n'est pas pour ne pas voir, mais pour descendre vers ce regard intérieur qu'il a si longtemps négligé. Œdipe, c'est l'homme. L'homme est aveugle à lui-même, il s'ignore, c'est sa tragédie. La psychanalyse, à la suite de Freud, a fait un usage réducteur du mythe d'Œdipe pour illustrer le complexe du même nom, désir inavouable que le petit enfant mâle chez le petit enfant mâle, d'éliminer son père et de le supplanter dans la couche de sa mère. Du point de vue de la pièce, c'est un peu tordu, pour la simple raison qu'Œdipe, chez Sophocle, ignore totalement qui sont ses parents et ne saurait donc refouler son désir. Quoi qu'on puisse aussitôt ajouter que, comme tout homme, il les ignore en un sens beaucoup plus radical, en raison même de ce désir qu'il refoule. Mais de toute façon, Sophocle n'écrit pas un drame familial. Il met en scène, encore un coup, la tragédie de la condition humaine. Tragédie dont Freud lui-même a fort bien parlé dans un texte fascinant où il n'est pourtant nullement question d'Œdipe, Das Umänliche, que selon une mauvaise habitude, on présente en français sous le titre redondant de L'inquiétante étrangeté. L'inquiétante familiarité vaudrait mieux. Avec un soupçon de cuistrerie, on pourrait même dire l'inquiétant, où le tiret ferait ressortir le qui est, avec ce qu'il a de quoi, de muet, un peu à l'image du Heimlich de l'allemand, qui, comme le souligne Freud, a le double sens de familier et de secret. Bref, ce qu'Œdipe roi illustre de fondamental et qu'on retrouve chez Freud, où il offre un intérêt bien plus grand que l'éculé complexe d'Œdipe, c'est la présence en chacun de nous de cette altérité intérieure dont, a priori, personne ne sait rien et dont personne ne veut rien savoir. La situation psychique de l'homme, c'est d'ignorer, au plein sens du terme, la division qui le traverse. c'est d'être partiellement, voire essentiellement, étranger à soi-même. N'est-ce pas aussi ce que dit plus ou moins consciemment l'évangéliste lorsqu'il rapporte l'exclamation du Christ « Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et Augustin, lorsqu'il s'indigne de ce que l'âme, si prompte à commander au corps, ne sache se faire obéir d'elle-même. Les marques de cette scission de l'âme, qu'on trouve évidemment au premier chef chez Platon, dans Phèdre, dans le Banquet, dans la République, sont partout dans la littérature. Mais ces clivages, souvent, comme chez Augustin, sont parfaitement conscients. C'est le drame de la volonté. L'ignorance initiale d'Œdipe, au contraire, est complète. Sa bonne foi sans faille. Et le doute ne commence à pénétrer sérieusement au milieu de l'intrigue sans infléchir sa détermination. Le doute ne commence à le pénétrer sérieusement qu'au milieu de l'intrigue sans infléchir sa détermination. C'est décidément le drame de l'ignorance. Freud a tenté d'élaborer, dans sa pratique et dans sa théorie, des outils d'investigation destinés à combattre cette ignorance. Il était inévitable que l'issue de ce combat, pour acharné qu'il fût, demeurât indécise, voire peu concluante. Et d'abord, parce que le père de la psychanalyse, tributaire du positivisme de son époque et de sa formation médicale, voulait remporter une victoire scientifique. On voit bien aujourd'hui ce dont Freud lui-même se doutait à son corps défendant. Une telle victoire était impossible. D'aucuns se satisfont de cette impasse pour conclure à l'inanité de la démarche analytique. Les adversaires de cette démarche lui demandent des bilans cliniques, qu'il n'exige pas toujours avec le même zèle d'autres méthodes thérapeutiques, sachant fort bien qu'elle ne peut les fournir. Indépendamment de ces problématiques vertus curatives, la psychanalyse m'intéresse ici en tant qu'elle est, plus qu'aucune autre science humaine, pensée de la limite. J'irai plus loin. Je dirais que c'est parce qu'elle est en soi toute une expérience, sans appartenir pour autant aux sciences expérimentales, qu'elle ouvre à une telle pensée. La psychanalyse est une expérience sans fin, aux frontières d'un domaine impénétrable, à travers laquelle le « je » prend conscience et de son inépuisable étrangeté et de sa nécessaire finitude. Si l'expérience analytique apprend quelque chose, c'est que la représentation de soi est à la fois très nécessaire, vitale et toujours fausse, toujours incomplète, toujours à reprendre. Ce n'est pas qu'Œdipe, parce qu'Œdipe se découvre autre qu'il perd toute identité, cette découverte l'oblige plutôt à se reconstituer sur de nouvelles bases. Mais ces bases seront toujours fragiles et virtuellement provisoires. L'exploration aux franges de l'inconscient, par définition interminable, reste constamment ouverte. L'inconscient est insondable, mais sa frontière mobile. L'inconscient est irréductible, mais le conscient expansible. Le sentiment de l'identité est indispensable, mais sa forme mouvante. La psychanalyse introduit à une éthique que j'aimerais appeler éthique de la frontière ou cinétique. En ce qu'elle est en mouvement. Elle abolit la fixité du moi. Du coup, elle sape aussi la certitude du sujet moderne, si tant est que pareille certitude ait jamais été. Disons que la pensée européenne de l'âge classique donne à l'assurance du sujet de solides apparences que la théorie psychanalytique ébranle. Car il faut bien se demander pourquoi Freud a eu un tel impact, du moment que son vocabulaire est partout présent, fût-ce à contresens, même là où ses théories sont rejetées. Descartes semble mettre le sujet en possession de lui-même. Il lui fournit les moyens de s'affirmer et d'ordonner son regard sur le monde. Sur cette base, la philosophie des Lumières fait théoriquement du sujet consentant, éclairé, la clé de voûte de l'ordre social. Le sujet collectif, la nation, le peuple, la volonté générale, se présente grossièrement comme une reproduction élargie de l'individu. La société peut se gouverner de ce qu'elle rassemble des citoyens capables individuellement et collectivement de déterminer leurs intérêts, de faire des choix rationnels et d'agir en conséquence. Ainsi va esquisser à grands traits la séquence qui, de la certitude du sujet, conduit au projet politique de la modernité. L'esprit rationalise et simplifie après coup la trajectoire qui lui convient, qui s'accorde le mieux au moment, toujours capital, qu'il croit occuper dans l'histoire. Ces inévitables simplifications pèsent comme des écailles sur la lecture des grands textes fondateurs. Terrible poids pour une œuvre, pour une pensée, que d'être presque toujours a posteriori chargé de fonder. Personne ne lit plus depuis longtemps des cartes pour lui-même, mais pour ce qu'il annonce, ou pour ce qu'il manque d'annoncer, ce qui revient pour ainsi dire au même. Dans les deux cas, sa pensée est fonction de l'histoire. Descartes, Kant, à l'exemple d'à peu près tous les penseurs dont se réclame l'Occident, sont embrigadés dans le cours de l'histoire, pris dans une lecture monolithique du passé. Que le passé soit périodiquement reconsidéré n'y change pas grand-chose, la nouvelle interprétation prend le relais de l'ancienne, et il n'y en a jamais qu'une qui vaille en même temps. Qu'au même moment le même historien considère la même histoire comme porteuse d'une pluralité de sens semble quasiment impossible. Les lectures antérieures, quand elles ne sont pas tout simplement ignorées, entrent dans tels les blocs des ruines antiques dans la construction du nouvel édifice destiné à accueillir la vérité du jour. Que Descartes ait pu penser à la fois pleinement dans son temps et hors de son temps échappe à l'histoire des idées. Toute œuvre marquante semble décidément condamnée à succomber sous l'implacable logique des événements. Voilà pourquoi Descartes, comme naguère Platon, est aujourd'hui muet et n'a nul besoin d'être lu. Il est compris d'avance, digéré par l'histoire, en dehors de laquelle son aventure n'intéresse personne. Car c'est bien d'aventure qu'il s'agit dans le fameux discours. Récit, le discours de la méthode de Descartes. Récit d'une aventure, d'une exploration aux limites de la subjectivité, et non pas fondation du sujet moderne, ni même traité de la méthode. Ainsi, mon dessein n'est pas d'enseigner ici la méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seulement de faire voir en quelle sorte j'ai tâché de conduire la mienne. Les trois premières pages du discours sont une succession de mises en garde sur la portée de ce que Descartes lui-même présente comme une histoire, ou si l'on préfère, comme une fable. Contrairement à l'idée la mieux reçue, le parcours de cet aventurier de l'esprit, soldat et baroudeur de surcroît, ne mène pas au triomphe de la raison, mais bien plutôt à sa jouissance, plaisir et utilité de son exercice. Au risque d'anéantir les possibilités mêmes de cette raison, Descartes réduit à la fragilité indestructible du « je » pensant l'espace de certitude minimale, à partir duquel celui-ci peut tenter de s'engager sur le difficile sentier de la découverte. Il le fait avec une conscience aiguë de cette réduction, prenant bien soin d'observer que le quelque peu de vérité qu'on viendra à connaître, si utile soit-elle au bien commun, n'est rien en comparaison de ce qu'on continuera d'ignorer. Il se propose seulement de délaisser la philosophie spéculative, dont Kant montrera plus longuement la vanité, par une philosophie pratique dont nous pourrions employer des connaissances à servir les divers corps de métier, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce malheureux bout de phrase a été repris ad nauseam pour faire la preuve de l'ambition prédatrice de son auteur, le plus souvent amputée de ce « comme » qui pourtant lui apporte une nuance décisive. À supposer même que Descartes ait placé une confiance excessive dans les promesses de la science expérimentale, rien dans son aventure subjective ne l'amène à formuler l'idée d'un sujet maître du monde. Ouvrez les guillemets. « Ma maxime, dit-il dans la troisième partie du discours, est de tâcher toujours plus tôt à me convaincre que la fortune ait à changer mes désirs que l'ordre du monde. » et généralement de m'accoutumer à croire qu'il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir que nos pensées. » Fermez les guillemets. Loin de vouloir changer le monde, la société Descartes se borne à obéir aux lois et coutumes de son pays, sans les juger pour autant meilleures que celles des Perses ou des Chinois, et en se rangeant à la pratique de ceux qui, autour de lui, en usent le plus modérément et le plus raisonnablement. J'aime Descartes. Sans jamais renoncer à la raison, il pense sa limite et nous fait grâce du rationalisme universalisant qui imprègne le projet politique des Lumières. Projet auquel l'histoire occidentale des deux derniers siècles inflige, comme chacun sait, le plus cuisant démenti. Le sujet collectif que Kant souhaitait voir un jour atteindre sa majorité et prendre la responsabilité éclairée de son propre devenir s'est montré, particulièrement au pays de la philosophie, capable des pires aberrations. Quant au sujet individuel, il plie sous le poids d'une responsabilité trop lourde pour lui, assurer à lui seul son propre bonheur. À cet égard, l'œuvre de Freud semble apporter une certaine délivrance. Mais elle pose surtout de nouvelles exigences. Envisagée comme une simple explication par l'inconscient de tout ce qui nous dépasse dans notre propre comportement, la psychanalyse ne serait qu'une piètre excuse. En tant qu'exploration de la zone frontalière de notre être, elle ouvre la voie à une nouvelle éthique. Elle nous fait une sorte de devoir d'intelligence. Freud rejoint Platon, là même où l'élève de Socrate nous provoque le plus vivement. « Nous ne sommes malheureux et malfaisants, dit-il, qu'à proportion de notre ignorance. Nous ne sommes inférieurs à nous-mêmes que par paresse mentale. » À moins que ce soit par excès de rigidité. L'apport majeur de Freud, étant donné surtout le contexte positiviste qui était le sien, c'est d'avoir pris au sérieux la demande d'une de ses patientes à être écoutée. D'avoir par là réhabilité la parole, en un sens où domine le discours du sujet moderne, soi-disant sûr de lui et découvreur des secrets de la nature. Dans certaines situations dont Freud tenta, un peu paradoxalement, d'établir les paramètres, la parole, avec ses balbutiements et ses faux pas, vient briser la logique discursive du moi. Sous l'effet des bulles de parole incontrôlées qui viennent en crever la surface, le discours organisé apparaît comme une membrane, invisible mais résistante, qui sépare le sujet de ce qui en lui le dérange. Les lapsus, les actes manqués, cessent soudain d'être perçus comme des écarts plus ou moins honteux qu'on se croit aussitôt obligé d'effacer d'un malheureux, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ils deviennent des moments de vérité. Ils font à l'improviste des trous dans la rationalité mensongère dont nous usons ordinairement pour nous justifier à nos propres yeux. Le discours apparaît pour ce qu'il est, une limite, une censure, une rigidité qui s'ignore. Tout discours, si peu que ce soit, tend à une certaine rationalité. Et dans cette mesure même, fait inévitablement effet de frontière. Cette frontière est nécessaire, à l'instar des limites de la langue elle-même, faute de quoi je devrais, séance tenante, cesser d'écrire. Le mensonge, la barrière en tant que limite négative, n'est pas inhérent à la rationalité. Il tient à l'imperméabilité de cette rationalité que cette rationalité établit souvent à notre insu. Encore un coup, ce n'est pas la limite qui est en cause, mais son inflexibilité, son opacité. L'inconscient a besoin de la langue, la parole a besoin du discours, l'irrationnel du rationnel, comme le sable a besoin de la mer. L'expérience analytique elle-même doit donc être pensée dans ses limites, limites paradoxales de ce qu'elles sont aussi nécessaires qu'indiscernables. Leurs limites, leurs bénéfices, leur bénéfique incertitude permet et d'écarter l'idée d'aboutissement et de parer au risque d'enfermement. Rien de plus contraire à la démarche analytique que de croire qu'elle puisse conduire à je ne sais quel au-delà de la conscience. Rien de plus malsain que de s'y enfermer et d'y tourner en rond, comme le divan en offre l'infinie possibilité. En analyse plus qu'ailleurs, la limite est le lieu même d'une incessante exploration. Toute limite n'est bonne qu'à condition d'être flexible et poreuse, à condition d'être explorée. La frontière qui tue, la frontière qui détruit, ce front buté qu'on oppose à l'autre, au dehors comme au dedans, c'est la limite peureuse. Cette peur d'être atteint, d'être touché par ce qui vient d'ailleurs, y compris de cet ailleurs inadmissible qui est en nous, cette peur d'être bouleversé, blessé, cette répulsion envers l'intrus, d'où qu'il vienne, se ramène d'une manière ou d'une autre, je crois, à la peur de disparaître. Disparaître est pourtant notre destin à tous, individus, familles, pays, civilisations, espèces. Et c'est d'avoir vécu qui compte, le cas échéant d'avoir laissé des traces. D'accepter aussi, du coup, d'être marqué par la présence de l'autre. D'être vulnérable, de renoncer à cette entreprise insensée, la lutte contre la mort. À s'acharner contre son échéance inéluctable, c'est la vie même que nous finissons par combattre. Tout corps étranger devient virtuellement destructeur, déstabilisateur, source de danger. L'autre, soupçonné de l'hostilité que nous lui vouons, apparaît aussi acharné à nous détruire que nous le sommes à nous conserver. C'est la fameuse loi de la jungle, sous son aspect le plus morbide. Elle suppose une conception rigidement cloisonnée de l'individu, dans l'égoïsme duquel la sociabilité n'aurait d'autre aucune part. Si ses adeptes avaient raison, l'idée même de société serait inconcevable. Mais la conception fermée, étanche de la frontière n'est pas seulement meurtrière pour les relations entre les hommes, entre les peuples et les groupes de toutes sortes, elle affecte mortellement notre rapport au monde, à la nature, à tout ce que nous posons comme objet. Le concept même de nature, en tant qu'objet distinct de l'homme, de la culture, est éloquent. Il indique notre propension à voir la nature et le monde en général comme quelque chose dont nous ne ferions pas complètement partie. La nature devient l'altérité de l'homme, qui l'étudie en tant que tel, en tant qu'objet séparé de nous, voire hostile à notre espèce. La nature est ce dont il faut se défendre. Plus ce qu'il faut conquérir, maîtriser, réduire, compartimenter, enrégimenter. À moins qu'il ne s'agisse de la préserver, comme le préconisent les mouvements écologistes. Mais l'idée que la nature est ce que nous devons protéger de notre propre démesure, en soi, ne change pas grand-chose à notre rapport à elle. Le souci écologique s'inscrit encore largement dans une perspective de gérance magistrale, la nature qu'il s'agit désormais de réparer, à l'instar de ce qu'on ne cesse d'exploiter, reste extérieure à nous. Nous n'y sauverons rien, et nous-mêmes moins que tout, tant que nous serons dans l'imaginaire débridé de la maîtrise, tant que notre mode de vivre ne sera pas pensé avec un peu plus de modestie, en intelligence avec elle. L'intelligence de la nature n'est pas la science n'y suffit pas. Cette intelligence globale est inséparable de la question première, incessante, de la question politique par excellence, qui d'être insoluble n'en commande pas moins toutes les autres. Comment vivre ? Vanité de toute perspective écologique qui n'a pas cette question pour horizon. Ni la science ni la technique ne peuvent nous soustraire à la puissance réductrice du capital, s'il est vrai que le mouvement perpétuel de son accumulation commande à notre manière de vivre et notre manière de voir. Notre asservissement, tant existentiel que scientifique, est proportionnel à l'importance que prend dans le monde la logique d'une croissance illimitée. Sommée, chacune dans son domaine particulier, de faire la preuve de leur efficacité instrumentale, les sciences expérimentales ne sont pas en mesure de penser la limite. La question de la limite doit venir d'ailleurs. Elle ne peut se poser qu'à partir du « comment vivre ». Cette question s'impose d'autant plus que le développement même des sciences nous invite, malgré leur dispersion, à une réflexion d'ensemble sur le monde et sur la place que nous y tenons. La fragmentation et la réduction du monde en phénomènes observables et manipulables n'a pas seulement permis de réaliser d'impressionnants progrès techniques, elle a aussi conduit, paradoxalement, à abattre les murs mêmes que les diverses disciplines avaient érigés. Le plus réjouissant dans la tournure que prend l'aventure scientifique, c'est de voir aujourd'hui d'anciens cloisonnements se défaire. C'est de constater que la chimie, la physique, la biologie et l'informatique convergent de plus en plus, que le concept même de matière se transforme au point que la cloison entre le matériel et le spirituel ou le mental est en voie de dilution. Si donc le cloisonnement scientifique donne des résultats, c'est justement parce qu'il est provisoire et que ces résultats contribuent à défaire les cloisons qui les ont rendus possibles. Chaque discipline et sous-discipline en arrive ainsi, par ses propres avancées, à remettre ses frontières en cause. Si l'expérimentation scientifique passe par la réduction, l'esprit scientifique, c'est-à-dire l'esprit véritablement curieux et inventif, reste ouvert, perméable. Les plus grands savants ne cessent de s'étonner bien au-delà de leurs limites disciplinaires. Mais cet esprit est menacé. Les experts, les adjudants du savoir, fort nombreux dans les universités, y compris et surtout dans les sciences humaines, n'ont de l'esprit scientifique qu'une conception disciplinaire bornée, lucrative, crispée, et ces gens contribuent beaucoup à maintenir le grand public dans une conception réductrice de notre rapport au monde. Le spécialiste est celui qui se croit le mieux qualifié pour parler de son domaine sans même s'apercevoir que la propriété qu'il s'arroge n'est pas son bien, mais une part infime de la connaissance humaine, elle-même encore malgré tout minuscule. L'expert ne défend nullement la science, mais sa compétence, sa crédibilité, c'est-à-dire la source de ses revenus et de son petit pouvoir. Il est hanté par l'efficacité et la rentabilité. Le jargon académique, empruntant au langage militaire, parle volontiers de créneau. On ne saurait mieux dire, dans la position de tout chercheur, que tout chercheur doit emporter de hautes luttes sur le rempart de sa discipline et du haut de laquelle il lui faut se maintenir coûte que coûte en tirant à boulet rouge sur tout ce qui bouge. La conception guerrière de la science domine insidieusement l'imaginaire collectif de ce que, là aussi, le sens du territoire et sa délimitation sont le plus souvent dictés par la peur mortelle de disparaître de la carte. Pas étonnant dans ces conditions que la nature, malgré la science, fasse l'objet d'un incessant combat et que la science elle-même puisse à son tour apparaître menaçante. Il est d'autant plus difficile aux chercheurs d'échapper à cet esprit guerrier que la science est de plus en plus tributaire de la stratégie mercantile dans laquelle elle s'insère. Les possibilités et les avantages attendus du progrès technique constituent, en effet, un des enjeux majeurs des continuels affrontements économiques et financiers qui se jouent nuit et jour à l'échelle planétaire. Il existe heureusement des chercheurs qui échappent à ces pressions et des bailleurs de fonds qui comprennent que la science ne peut que pâtir d'être trop étroitement enrôlée au service des forces financières dont elle a besoin pour se développer. En dépit de toutes les contraintes qu'exerce sur elle la logique du capital, la curiosité humaine est irrépressible, l'aventure scientifique interminable. Au meilleur sens du terme, reste sans fin chez l'homme la propension à l'émerveillement. Il a infini matière à s'émerveiller. Pourquoi donc l'inépuisable réserve d'étonnement qu'offre le monde ne nous suffit-elle pas? Si j'en crois mes propres peurs, cette insuffisance a quelque chose à voir, encore un coup, avec le déni de la mort. L'indicible difficulté que l'homme éprouve, et l'homme de la civilisation occidentale plus que tout autre, à faire face à cette limite inéluctable qu'est pour nous la mort, l'occultation même de cette infirmité mentale devant l'échéance ultime, l'angoisse inavouable qu'elle produit entraîne cet homme à se retrancher dans l'étourdissement d'une fuite sans fin. Paradoxe, la haine de la mort nous enferme dans une forteresse mobile dont l'appétit de conquête ne cesse d'envahir un terrain extérieur, le monde, que cet appétit projette à l'image de sa propre démesure, sans limite. L'angoisse de notre finitude alimente le fantasme de l'illimité. Ce fantasme nous gouverne. Le capitalisme en offre aujourd'hui la manifestation la plus répandue et la plus puissante. Il est le système sur lequel la croissance, étant à elle-même sa propre fin, n'a pas de borne. Ce que Marx a si bien analysé en tant que mode de production correspond probablement à une caractéristique essentielle de notre civilisation. En un sens, le capitalisme manifeste à l'échelle la plus vaste l'incapacité de l'homme moderne à assumer le manque, à lui faire une place. Cette place portait naguère la marque de Dieu. Qu'on le sût ou qu'on l'ignorât, Dieu l'occupait. Mais son nom est depuis longtemps frelaté. Il a soulevé et soulève toujours trop de haine, il a nourri trop de guerre, provoqué trop de méprise pour qu'on puisse encore lui confier la charge infinie de ce qui nous dépasse. Je voudrais tant qu'il soit pour nous cette métaphore du vide dont je ne sais où parle magnifiquement Jabez. Mais qu'y faire ? Dieu a trop servi et les institutions n'ont pas fini d'en abuser. Tant qu'il y aura des papes et des hiérarchies pour les confisquer, Dieu restera inutilisable. Car Dieu n'est pas mort, il est usé. Nietzsche n'était pas dupe de la clameur de son décès. Une métaphore aussi puissante, aussi nécessaire, ne se laisse pas tuer. Tout au plus, s'étiole-t-elle, s'épuise-t-elle en attendant de reprendre des forces. Dieu n'est mortel que pour ceux qui l'envisagent comme une personne, comme quelqu'un, si haut soit-il. La métaphore de Jabez reste insaisissable pour qui a cru en la chose même, pour qui voit Dieu peint sur la voûte de la chapelle Sixtine. A-t-on suffisamment réfléchi à ce qu'il en coûte d'avoir voulu un Dieu de chair? Nous avons beau croire l'avoir tué, son corps meurtri traîne encore parmi nous. Mort ou quasi, Dieu nous encombre bien davantage que vivant. Moribond dont nul ne sait plus que faire. Il faudrait pouvoir penser à nouveau le récit évangélique qui nous a suivis durant 2000 ans et que nous n'avons jamais réellement osé envisager comme autre chose qu'une vérité à prendre ou à laisser. Que cette histoire soit réellement vraie ou fausse ne fait ici aucune différence. Quelle innocence tant chez tant d'esprits forts d'avoir cru qu'il suffisait de ne pas y croire. Qu'il suffisait de dire que cette histoire de mort et de résurrection était impossible, qu'elle n'avait pas eu lieu, ou pire encore, qu'elle n'avait aucun sens. Comment ne pas voir que par ça, par là, ces libertins se situaient à leur tour sur la ligne droite qui lie la vérité au mensonge. Du moment que cette histoire ne pouvait être qu'attestée ou infirmée, du moment qu'elle était prise entre les mâchoires de l'affirmation et de la négation, elle devenait rigoureusement impossible à lire, lue de toute éternité pour les croyants, illisible pour les autres. Jamais un grec n'aurait songé à se demander si la théogonie d'Hésiode était vraie ou fausse. Elle était représentation. Tout le mal du christianisme vient de ce que son récit fondateur, vissé comme il est à l'histoire, n'a jamais pu être lu comme un mythe, ni compris comme une allégorie, comme une mise en scène imaginaire de la mort de Dieu, puisque, après tout, c'est Dieu même que les hommes tuent et qui, en quelque sorte, les autorise à le faire en la personne de son Fils. Mais ce sont bien sûr les hommes qui racontent, et c'est d'eux que vient cette autorisation à tuer l'image qu'ils se font de Dieu, et qu'on pourrait lire comme un retour à l'essence du judaïsme, à l'idée que Yahvé comme indicible et irreprésentable. Au lieu de quoi, à prendre la chose comme un événement historique avéré, s'installe un sentiment de culpabilité insupportable que seule la résurrection peut racheter. Preuve que Dieu l'a bel et bien voulu et que les hommes n'ont fait qu'accomplir aveuglément sa volonté. Dès lors, ni la geste ni la parole christique ne peuvent être reçus comme un don d'émancipation, mais tout au contraire, comme le prélude à un sacrifice terriblement paradoxal. La résurrection n'abolit le meurtre de Dieu que pour ceux qui, persuadés de l'avoir véritablement crucifié, croient plus que jamais en lui. L'expiation d'un tel forfait ouvre à un repentir sans limite. Ce qui, dans le christianisme, me stupéfie, ce n'est pas tant le récit évangélique lui-même que sa destinée, son statut, à savoir que cette histoire fabuleuse, ahurissante, s'est constituée et transmise au fil des siècles comme un témoignage, testament, authentique, que nul ne pouvait interpréter à sa guise sans tomber sous le coup de l'anathème. Lire le récit évangélique comme, disons, l'Odyssée d'Homère, ou mieux encore, dans l'esprit du Phèdre de Platon, était proprement impensable. À la limite, normale, inévitable, du texte s'ajoutait celle. À la limite du texte s'ajoutait celle, autrement plus contraignante et arbitraire, de sa relecture, de sa lecture. Le récit n'avait qu'un sens, et ce sens était clos. La clôture a été longtemps si serrée qu'aujourd'hui encore, malgré le déclin de l'Église, malgré la multiplication des exégèses, une lecture ouverte demeure presque impossible. L'illusion la plus répandue concernant le christianisme, c'est de croire que les évangiles, soumis comme ils le sont depuis des décennies à une critique approfondie, peuvent désormais être abordés comme n'importe quel autre récit. Comme si la marginalisation de la religion et la privatisation de la foi avaient enlevé sa force à l'histoire qui les charrie et aux principes qui les ordonne. De s'être détaché du récit qui l'incarnait, le principe de vérité n'a pas disparu, il n'a fait que changer de place. L'incroyant se passe hardiment de Dieu, mais ne voit pas qu'il a placé sa crédulité ailleurs, à la bourse, dans la science, dans l'État, que sais-je. L'objet de la croyance a changé, pas le désir de croire. En se déplaçant, le principe de vérité n'a fait qu'investir l'ambition humaine d'une puissance sans bornes. L'ambition illimitée à laquelle carbure le monde fini des choses humaines finira-t-elle par fermer l'espace virtuellement infini de la pensée? J'en doute. Mais je ne sais pas non plus quelles traces les générations à venir garderont d'une civilisation, la nôtre, que déjà nous comprenons si peu et dont nous nous réclamons si mal. Je me prends à rêver un au-delà des choses humaines dont le nom ne serait plus celui de Dieu. Ce pourrait être celui de la mort s'il ne faisait pas si peur. Voilà qui me ramène une fois encore à l'inévitable point de fuite de toute vie, la peur de mourir. La peur de mourir dont, non la mort, est tout à la fois le combustible de notre démesure et notre limite de la plus néfaste. Elle nous agite et nous rétrécit du même souffle rauque. Le divin n'est pas mort, le divin est la mort. Il est cette paix inconcevable, ce rayonnement invisible et silencieux devant lesquels cesse toute peur et tout acharnement. Là où cesse la peur de vivre, cesse aussi l'acharnement à ne pas mourir. Là vient l'acceptation de la finitude, de cette reconnaissance, de la capacité d'accueillir la mort comme un don mystérieux, dépend, je crois, la possibilité d'une autre civilisation. Une civilisation qui, sans oublier ses sources, n'aurait ni vérité, ni lieu de culte. Une civilisation qui se déploierait dans l'aveu, souriant, de notre fragilité et de notre incomplétude. Contemplée du rivage, la mer donne ensemble l'idée d'infini et de limite. En elle, la limite respire. C'était La mer, la limite, de Thierry Hensch.